Bonjour, c'est Vincenzo Genovese, journaliste italien basé à Bruxelles, où je couvre l'actualité européenne. Mais voici des retours sur les sujets de cette boussole stratégique de l'Union européenne, le plan global de défense commune, approuvé par les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense en mars 2022. Aujourd'hui, c'est au tour d'un autre de ses composants, la boîte à outils hybride, qui est destinée à aider l'Union européenne à faire face à un large éventail de menaces hybrides en provenance des pays étrangers.
Menaces hybrides, guerre hybride, ces termes ont souvent été entendus ces derniers temps sur le continent européen pour désigner une large série de mesures coercitives et subversives utilisant à la fois des outils et des tactiques conventionnelles et non conventionnelles. Fondamentalement, ces menaces ne sont pas nouvelles, explique Dylan Macarini-Cresson, expert et chercheur à l'unité de politique étrangère de l'UE au Centre d'études politiques européennes, ou CEPS.
Je l'ai rencontré un jour de pluie dans les quartiers européens de Bruxelles.
Le concept de tactique hybride existe depuis aussi longtemps que les pays tentent de déstabiliser d'autres pays. Et il est vraiment en train de passer au premier plan, alors que l'UE se développe en tant qu'acteur international avec ses propres tâches pour assurer la sécurité des citoyens de l'Union européenne.
Ces tactiques hybrides peuvent être utilisées de manière coordonnée par des acteurs étatiques et non étatiques pour influencer, voire contraindre, les décisions politiques des États membres de l'Union européenne, par l'intermédiaire de leurs citoyens, de groupes d'intérêts économiques ou d'entreprises ou de minorités. Elles prennent donc de multiples formes, des canaux diplomatiques aux leviers économiques, des moyens technologiques à la manipulation de l'information, pour n'en citer que quelques-unes. Tout cela peut être instrumentalisé dans ces campagnes hybrides.
J'ai rencontré à ce sujet Chris Kremidas-Courtney, Senior Fellow aux Amis de l'Europe, Friends of Europe, à notre groupe de réflexion sur l'UE basé à Bruxelles. Comme les cyberattaques ont-elles évolué avec la guerre, M. Kremidas-Courtney?
Ce que nous avons vu changer au cours des deux dernières années, depuis le début de cette guerre en Ukraine, c'est que les cyberattaques sont désormais également dirigées contre des infrastructures critiques et elles s'attaquent aux technologies de contrôle industriel et à la technologie opérationnelle. C'est là que le cyber rencontre l'ingénierie des appareils qui contrôlent et déplacent les choses, tels que les thermostats ou les appareils pour augmenter ou diminuer la chaleur. Et c'est là que nous avons une réelle vulnérabilité, et il y a un certain nombre d'experts en Europe qui ont souligné que nous devons combler cet écart.
La reconnaissance de ces menaces par l'Union européenne se reflète donc dans sa boussole stratégique, le document qui est au cœur de l'agenda de l'UE en matière de sécurité et de défense. La boussole examine la manière dont l'Europe peut renforcer ses capacités afin de détecter, de répondre et d'atténuer les effets de ces menaces hybrides provenant de pays tiers dans le cadre de ce qui est appelé une boîte à outils hybride, c'est-à-dire une série d'initiatives, dont la partie la plus importante est appelée « équipe d'intervention rapide en matière hybride ».
Monsieur Macchiarini-Crosson, quel est exactement leur rôle ?
Are able to go into an EU member state or a partner country?
Ils peuvent se rendre dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays partenaire et cartographier les vulnérabilités des menaces hybrides dans ce pays, ainsi que formuler un plan pour atténuer les menaces de ces dernières.
And these hybrid rapid response teams are essentially a pool of rapidly.
Et ces équipes hybrides d'intervention rapide constituent essentiellement une réserve d'experts rapidement déployables qui connaissent parfaitement les spécificités de chaque contexte et peuvent proposer le bon dosage de politique à adopter.
L'expert estime que l'Union européenne a pris la mesure de ce qui se passe en Ukraine et intégré l'idée que les moyens utilisés par la Russie pour poursuivre ses objectifs politiques vont bien au-delà du conflit armé. En réaction, l'Union a pour principale ambition de renforcer sa capacité et ses compétences en la matière, afin de s'adapter à la multiplicité de ces défis hybrides auxquels elle est confrontée. La boussole stratégique européenne contient donc d'autres éléments, de l'élaboration d'une boîte à outils cyberdiplomatique, une réponse diplomatique commune à toute l'Union européenne pour dissuader et éventuellement répondre aux cyberactivités malveillantes, flanquées éventuellement de cybersanctions. Enfin, une politique européenne de cyberdéfense, adoptée en novembre 2022, vise à renforcer les capacités de l'UE en matière de cyberdéfense ainsi que la coordination et la coopération entre les cybercommunautés militaires et civiles pour mieux protéger, détecter et défendre en mettant toute une gamme d'options défensives à la disposition de communautés militaires et civiles. Si l'UE a donc un important potentiel de développement à l'avenir, c'est aussi parce qu'elle est confrontée à des défis plus considérables encore. Le défi du recrutement de spécialistes en cybersécurité n'est pas des moindres.
Pouvez-vous clarifier ce point pour nous, Monsieur Kremidas-Courtney?
L'Europe elle-même manque d'environ 300 000 experts en cybersécurité. Il y a donc environ autant de postes à pourvoir en Europe dans différentes entreprises et administrations pour des experts formés à la cybersécurité. Nous n'en avons pas assez. Si nous manquons de personnel, nous manquons de gardiens de domaine cyber. Je pense donc que c'est une chose qui doit être abordée et je pense que des solutions publiques ou privées seraient utiles. Et jusqu'à présent, le problème a été le suivant. Qui paie pour ces formations? C'est une question qu'il est très important d'aborder, je pense.
La première étape concrète pour pallier à ces manquements a été la proposition de la Commission d'un bouclier cybernétique européen en avril 2023. Ses objectifs ? Renforcer la coordination entre les États membres de l'UE, mieux faire connaître les types d'attaques pouvant être menées dans les domaines cybernétiques et enfin établir un réseau d'experts, tant des pouvoirs publics que des entreprises privées, capables de désamorcer les menaces informatiques. Mais de nombreuses questions restent en suspens sur la manière dont cette réserve d'experts fonctionnera concrètement. Quels profils seront retenus? Qui prendra la direction de cette réserve? Les réponses à ces questions restent floues. Questions d'autant plus épineuses que dans le même temps, les États membres de l'UE sont aussi en concurrence entre eux pour attirer des profils avec ces cybercompétences, justement en raison du manque de main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine. Enfin, pour compliquer encore la donne, les nouvelles technologies sont en constante évolution, conduisant à l'émergence quasi permanente de nouvelles menaces. Ça signifie que l'Europe sera toujours en train de courir derrière cette cible mouvante, ajoute l'expert de Friends of Europe. La technologie de la réalité étendue, par exemple, pourrait fournir toutes sortes d'informations en temps réel sur l'écran d'une paire de lunettes. Mais d'où viendront ces informations? Le métavers est appelé à offrir de plus en plus de possibilités, une grande partie de l'activité économique et sociale se déplaçant progressivement dans la réalité virtuelle. Si les citoyens s'y habituent peu à peu, les institutions européennes devront elles aussi être en mesure d'appréhender les dangers qui y sont liés, note Chris Kemidas-Courtney.
Nous devons nous assurer que nous sommes prêts à faire face aux menaces qui pèseront à l'avenir sur la démocratie, la vie privée et la sécurité personnelle. Et je pense qu'il y a un nombre important de menaces hybrides et de vulnérabilités hybrides dans le métaverse. J'ai parlé à un certain nombre de personnes à Europol qui étudient déjà la question et y travaillent. Mais je pense que les agences de police nationale et d'autres doivent également être impliquées dans ce domaine. Nous devons apprendre ce qu'est cet environnement, où sont les vulnérabilités et comment nous pouvons protéger les citoyens et nos sociétés.
Une autre menace hybride des nouvelles technologies est l'intelligence artificielle conversationnelle, une sorte de cerveau synthétique qui rend les machines capables de comprendre, de traiter et de répondre au langage humain. La plateforme ChatGPT est probablement la plus connue. Et comme sa plateforme sœur, elle n'est pas non plus à l'abri des risques cyber, selon l'expert. Que voulez-vous dire par là?
Le problème, c'est que l'IA conversationnelle est une intelligence artificielle qui peut avoir une conversation avec nous, observer notre visage, écouter notre voix et apprendre à nous influencer. Et à chaque fois qu'elle nous rencontre, elle peut mesurer la réaction de nos yeux, de notre peau, de notre voix, du choix de mots, et trouver en permanence un moyen de nous convaincre de quelque chose. Il peut s'agir d'acheter une Fiat 50, célèbre type de voiture, ou de renverser notre gouvernement. Cela peut être n'importe quoi, n'importe comment. Je pense qu'il s'agit là d'exemples où des acteurs malveillants peuvent utiliser ces intelligences de manière à mettre en péril notre démocratie et notre société.
Si l'UE ne réglemente pas à temps, l'ESPER estime que nous pourrions nous réveiller un jour et constater que nous n'avons plus la liberté de choix que nous pensons avoir. Dans le même ordre d'idées, l'UE s'efforce d'être la première région au monde à réglementer strictement l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Le 11 mai, les commissions du Parlement européen ont donné leur feu vert à la proposition de la Commission sur le sujet, ouvrant ainsi la voie à un vote en plénière attendu pour la mi-juin. Cette loi sur l'intelligence artificielle interdirait certaines pratiques et en limiterait strictement d'autres, afin d'éviter toute utilisation intrusive et discriminatoire et de préserver le droit à la vie privée des citoyens de l'UE. Toutefois, le résultat final de cette tentative de réglementation générale dépendra de l'issue des négociations avec les États membres au sein du Conseil. Un processus qui, contrairement à la technologie de l'intelligence artificielle, est souvent lent. Avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine et la prise de conscience de la dépendance critique de l'économie européenne, le réveil de l'UE face à ses vulnérabilités a été brutal. L'ampleur du défi signifie que l'Union n'a pas d'autre choix que de rechercher toute l'aide possible pour y remédier. C'est le cas par exemple des infrastructures critiques. Bien que la responsabilité de cette attaque ne soit pas encore clairement établie, le sabotage du gazoduc Nord Stream 1 dans la mer Baltique en septembre 2022 a exposé un des dangers des menaces hybrides. C'est pourquoi début 2023, l'UE et l'OTAN ont annoncé la création d'un groupe de travail pour renforcer la protection des infrastructures critiques, dont les experts travailleront main dans la main pour identifier les principales menaces, comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Que peut apporter à l'UE une interopérabilité avec l'OTAN, M. McCallini-Crosson?
Cela signifie qu'elle peut travailler en collaboration et en complémentarité avec l'OTAN. L'OTAN est un partenaire clé dans la lutte contre les menaces hybrides et les États membres de l'Union européenne sont souvent des alliés de l'OTAN. Il est donc absolument nécessaire de veiller à ce que les deux organisations coopèrent régulièrement dans ce domaine.
L'UE et l'OTAN ont uni leurs forces pour faire face aux menaces hybrides, dont l'ampleur et l'évolution rapide rendent très difficile l'élaboration d'une stratégie unique et uniforme. Pour faire face à ces menaces, il faut entre autres une approche horizontale, beaucoup de ressources dans différents domaines, une main-d'œuvre qualifiée. Il s'agit aussi de rester constamment aux aguets, en suivant toutes les évolutions technologiques afin d'en appréhender les risques. Cela signifie en fin de compte que tous les citoyens européens devront être sensibilisés à ces risques.
Cela me rappelle un de mes épisodes précédents où je m'intéressais à ce qui pourrait être une armée européenne. Au fond, plutôt qu'une armée traditionnelle composée des soldats armés, une future armée européenne pourrait s'appliquer à un grand groupe de citoyens très conscients de ces nouvelles menaces et bien formés à leur égard et qui participeraient à cette veille cyber. C'est tout pour aujourd'hui et ceci clôture, pour un temps de moi, ma série sur la défense de l'UE. Je reviendrai bientôt avec d'autres histoires et des nouvelles en provenance de Bruxelles. Restez à l'écoute!